Jase en 2-1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bon midi. Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Ça sent le printemps aujourd'hui. Je vois la météo. Je me dis, ouais, on s'en va vers là, là, les belles températures. C'est 9 degrés alternant soleil et nuages pour aujourd'hui. Demain, même principe. Samedi, 11 degrés. Dimanche, 13. Et là, à plus long terme, on frapperait 17 lundi. Donc, Pascal CV, on est là dans belle saison. C'est parti. On va déjà être là au mois de mai dans une semaine. Alors, ça commence à paraître. On est très, 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 très heureux. Aujourd'hui, à l'émission, on va entre autres parler de nettoyage de rue et de nid de poule avec Mathias Turcotte qui revient d'un point de presse de la Ville de Québec. 2 semaines de retard sur le nettoyage de rue. Va falloir s'activer. Les touristes sont en ville. Faut que la ville soit belle et propre. Puis pour nos jeunes aussi qui jouent à l'extérieur dans la rue. Je vais aussi vous présenter un petit dossier spécial sur les blessures aux genoux de nos jeunes. On se pète, c'est le cas de le dire, le ligament croisé intérieur. Pourquoi? J'ai parlé avec Edith Castonguay de PCN Physio. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à l'intérieur du pourquoi. Puis j'ai des bonnes pistes de solutions, selon moi, à vous proposer. On aura Rémi Villemur, évidemment le caucus avec Emmanuel Latraverse. Et on aura aussi Gabriel Giguère qui va venir nous parler de ses nids de poule sur les autoroutes. Oh my God, qu'on en a! On a énormément de réclamations. Mais je dirais que c'est le chemin du pèlerin si vous voulez réclamer au gouvernement. On va parler de ça avec Gabriel Giguère. Puis on termine l'émission en sport avec Alex Laramin parce que c'est des séries au hockey. Ce soir, repêchage dans la NFL. Pascal Cévé, il y a de la circulation parce qu'il y a plein de travaux.
Oui, accident dans la bordure, là, l'embranchement du Plessineur qui cause un ralentissement sur le pont qui est assez important. C'est un peu plus complexe, effectivement, dans la circulation. On sait, travaux préparatoires du tramway qui a pris d'assaut bien des endroits. Il faut aussi parler du pont Pierre-Laporte-Sud, milieu tablier, voie de gauche qui est bloquée. Il y a une panne, remorquage en cours.
Je vous le répète pour nous joindre, 418-971-1021. N'hésitez pas à donner votre opinion. Vous pouvez nous écouter via le blvd.fm. C'est notre web radio. Les meilleurs moments s'y retrouvent. Et également, le blvd-1021, c'est notre application. Téléchargez-le si ce n'est pas fait.
Oui, merci. Grâce à vous, souvent, on voit des accidents avant même que les caméras ou le MTQ nous en assurent ou Québec 511. Il faut juste aussi que la fermeture des 2 voies sur 3 sur le pont Pierre-Laporte, ça va débuter maintenant juste à 22h en raison de la congestion qui est arrivée mardi soir. Plein d'automobilistes qui se sont retrouvés coincés dans un grand embouteillage. Probablement, vu la fin du match des Canadiens, situation qui a été aggravée par la fermeture qui était simultanée avec le pont de Québec. Puis habituellement, là, c'était prévu entre 21h et 5h30. Mais là, on s'est dit, ouais, non, on va juste réajuster un peu nos façons de faire. Puis les travaux vont se poursuivre de nuit jusqu'au 8 mai, je vous rappelle.
Exactement. Dans l'actualité, avant qu'on parle avec Emmanuel Latraverse, qu'est-ce qu'on suit, Pascal CV?
Mais ça, c'en est une grosse nouvelle. Mathias est allé aussi à un point de presse et il y a des questions qui ont été posées à ce sujet, mais un nombre de réclamations au ministre des Transports du Québec pour des dommages liés à des nids de poules qui a atteint un nouveau sommet au Québec. Et Mathias, c'est un peu une portion Québec, là, la ville, dans tout ça. Mais le Journal de Québec a rapporté que 2,2 millions de dollars ont été réclamés au ministère depuis le début de l'année 2025 seulement. Par contre, c'est 5 % des demandeurs qui ont été indemnisés quand tu disais que c'était un chemin de croix. C'est le cas de le dire. Il faut des preuves, par exemple une photo. Il faut aussi lancer dans des démarches administratives, demande d'accès à l'information pour obtenir des preuves que les autorités ont été négligentes, etc., etc., etc. Depuis le 1er janvier, on parle de 280 réclamations. Je t'en parlais la semaine passée, après notre party d'employés. Jeudi dernier, une de nos collègues qui va sur le pont Pierre-Laporte, qui arrive pour prendre un embranchement, nid de poule, ils étaient 8. Arrêter pour des crevaisons sur les véhicules.
Exactement. Donc, non seulement c'est difficile de faire une réclamation au gouvernement, vous avez tous les détails dans l'entrevue qu'on a fait avec Nicolas Ryan du CA Québec ce matin dans Marceau le matin sur blvd.fm, mais on va parler aussi avec Gabriel Giguère en fin d'émission de ces coûts par automobilistes qui sont le double au Québec que pour le reste du Canada, mais pourtant on a ces routes pitoyables.
À mentionner qu'il y a eu une violente agression à Sept-Îles, c'est 4 motards criminalisés qui ont été arrêtés. Pourquoi on prend le temps d'en parler? C'est que ça a à voir avec cette incroyable implantation du crime organisé avec les stupéfiants. Là, on ne parle pas juste des Hells Angels, même ces quatre personnes liées aux Hells Angels qui ont été arrêtées près de 8 mois après cette agression-là d'un homme survenu dans un bar de cette île. On parlait souvent de la Côte-Nord comme étant maintenant un épicentre de ce qui se passe. Et là, ça confirme un peu plus. Au moins, il y a eu des arrestations. Donc, c'est des gens âgés de 32 ans pour deux, 38 ans pour un et 45 ans pour l'autre. Ils étaient tous recherchés en vertu d'un mandat d'arrestation qui avait été émis à la fin mars. Ils ont comparu le jour même. Retour en présentiel 3 jours semaine. Les fonctionnaires en réunion virtuelle au bureau, ça dit tout.
Ouais.
Le titre du Journal de Québec dit absolument tout. On parlera effectivement de la santé des jeunes sur un autre aspect un peu plus tard, Jeff, mais juste mentionner que Donald Trump a ordonné dans les dernières minutes de détruire les bateaux iraniens posant des mines dans le détroit d'Ormuz.
Ça continue justement. Il n'y a pas de voie de passage possible à l'heure actuelle entre les États-Unis et l'Iran. Ça continue tout simplement à s'enfoncer, ce conflit-là, au grand dam de tout le monde sur la planète, parce que le coût de l'essence n'a pas de sens à la pompe à l'heure actuelle.
Le caucus, ce qui se passe autour de nous, ce qui influence nos vies, les vrais enjeux expliqués simplement. Emmanuel Latraverse vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus dans l'émission d'Angeaze sur Boulevard 101, c'est du lundi au jeudi. On va rejoindre Emmanuel Latraverse à l'instant même. Emmanuel, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ça va super bien. Est-ce que tu vas mieux que Gilles Bélanger qui est fâché contre son ancien parti politique?
J'ai appris que dans la vie, il ne s'agit pas de mener une bataille ou d'avoir raison. Il s'agit de convaincre ses collègues et de le faire avec tact. Alors, malheureusement, quand on joue l'éléphant dans le magasin de porcelaine, là, ben, c'est ça que ça donne.
T'es-tu en train de me dire que le 10 avril dernier, on va écouter l'extrait, Gilles Bélanger n'avait pas usé de tac lorsqu'il avait mentionné ceci en scrum improvisé devant les journalistes?
Sonia et moi, on n'est pas dans une position confortable pour dire go pour le 9 mai. Aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que la semaine prochaine, les éléments vont avoir été répondus, les lumières qui étaient jaunes vont devenir vertes ou les lumières, il n'y a pas beaucoup de lumières rouges. La gestion du changement est souvent sous-estimée dans des mandats de transformation numérique. On l'a vu à la SAC, mais c'est souvent au niveau de la formation des usagers, il y a des enjeux, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un bris de service.
Depuis cette sortie-là, c'est véritablement un feu roulant. Il y a plein de gens du monde de la santé qui ont sorti pour dire « ça marche pas cette affaire-là ». Il y en a d'autres des formateurs qui ont dit « ça marche ». Là, aujourd'hui, Nicolas Lachance nous apprend dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, qu'il y aurait 850 chirurgies reportées en raison, justement, de DSN, donc de la santé numérique. T'en penses quoi de tout ce fouillis-là, là, présentement?
Ce que j'en pense, c'est que premièrement, quand tu es un ministre, tu ne parles pas au nom de tes collègues sans être certain qu'ils sont à l'aise que tu parles en son nom.
En effet.
Oui, je pense à sonner la fin du règne de Gilles Bélanger. De deux, tout est mélangé hein, là-dedans. Là. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux, puis on va essayer de les décortiquer ensemble. Le fait qu'il y ait des chirurgies d'annulées, c'est malheureux, c'est un casse-tête. Mais à un moment donné, si tu veux donner la marge de manœuvre aux équipes pour apprivoiser le nouveau système, il faut que tu réduises la cadence. Puis s'ils ne réduisaient pas la cadence, on aurait une conversation sur le fait que les équipes ont peur parce qu'on ne réduit pas la cadence puis ils ne seront pas capables de tout livrer. Fait qu'à un moment donné, là, tu ne peux pas tout faire. T'sais? Je veux dire, c'est un peu le problème de sa clique, là, c'est qu'on a fermé la switch, on l'a allumé, puis il fallait que tout marche du premier coup.
Puis ça n'a pas fonctionné. Ces chirurgies-là, c'est quand même dommage parce que c'est des personnes qui sont en attente depuis longtemps, là, on ne se le cachera pas.
C'est des personnes en attente depuis longtemps, mais peu importe le moment où on va mettre en place un nouveau système informatique dans les hôpitaux, il va y avoir des chirurgies d'année.
Non, j'avoue, c'est un...
Mais malheureusement, c'est comme... C'est ça le problème, là. Alors, tu peux pas, si sous prétexte qu'on peut pas annuler des chirurgies, on change pas les systèmes informatiques, on va encore être au fax dans 2050, là.
En effet, c'est un bon point que t'amènes.
Numéro 2, et donc ça, c'est un problème. L'autre, c'est la question de la souveraineté des données numériques. Okay? Je comprends l'inquiétude, puis je crois qu'elle est légitime, l'inquiétude exprimée par M. Bélanger. Okay? Parce que tout ça, c'est à cause du fameux Cloud Act américain, hein, qui fait que n'importe quelle donnée stockée dans les serveurs d'une entreprise américaine, peu importe où sont les données, les États-Unis disent que l'administration peut y avoir accès. Okay?
Donc là, c'est la protection de nos données personnelles à nous, Québécois.
Nos données personnelles. Alors, en ce moment, on est en train d'essayer de migrer le plus de ces données. Puis ça, le gouvernement a signé un contrat avec une entreprise américaine, là. Donc, c'est où sont les serveurs de Epic. Là, on essaie d'installer les serveurs de Epic ici au Québec, en Ontario, etc. Mais c'est pas clair comme Epic est domicilié aux États-Unis que néanmoins, les données ne seront pas assujetties. Mm-hmm. Alors là, on peut grimper dans les rideaux puis dire « Ah, ben c'est effrayant, nanana. » La réalité, là, puis c'est inquiétant, c'est malheureux, mais tous les pays dans le monde sont confrontés à ce problème-là. OK? Je veux dire, ils sont tellement tous confrontés à ce problème-là, puis ils sont tous tellement en train d'essayer de trouver des solutions que c'est en train de devenir un enjeu dans les négociations commerciales avec les États-Unis, puisque les États-Unis ne veulent pas que leurs géants Microsoft, Google, Amazon soient pénalisés à cause de ce problème de souveraineté des données. Okay? Alors, le débat, il est légitime. Il est hyper compliqué. Est-ce qu'on construit des centres de données ici au Canada qui n'appartiennent qu'à des entreprises canadiennes? Ça fait partie du débat, ça fait partie des efforts du gouvernement. Le gouvernement fédéral, en ce moment, est confronté au même problème avec ses propres données. Alors, oui, il faut en parler, oui, il faut trouver des solutions, mais est-ce qu'on va blâmer le gouvernement parce qu'on est coincé avec ce problème-là?
Ouais,
la réponse, c'est non, tout le monde est dans le même bateau.
Qui est un problème à plus large échelle que seulement au Québec, c'est ce que je comprends. Donc, toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est que pour la problématique des données, il faut faire avec, on n'a pas le choix, on est rendu là, puis ça va faire partie de négociations qui vont être au-dessus de notre tête.
Mais je pense qu'il faut faire avec, il ne faut pas faire avec, il faut trouver des solutions.
Mmh.
Et c'est là que l'espèce d'absence de transparence, je pense, de la part du gouvernement, de la part de Santé Québec, contribue à l'espèce de débat puis à l'inquiétude ambiante.
Ben oui, Emmanuel, on a fait un dossier complet là-dessus, Jeff et moi, la semaine passée. Ça faisait une semaine et demie qu'on essayait d'avoir des réponses, de parler à quelqu'un. Il a fallu qu'on passe par un expert en technologie qui avait des contacts, puis un autre journaliste qui a fait en sorte de nous dire « je vis la même affaire ». Et ça augmente les critiques, l'incompréhension. Puis après, tu as les gens du terrain qui en parlent puis qui disent « non, on n'est pas prêts, là ».
À un moment donné, s'il y en a un enjeu, dites-le, expliquez-le, puis donnez-nous votre feuille de route pour le rejoindre. Puis si, selon vos analyses légales, il n'y en a pas d'enjeu, mais expliquez en détail pourquoi il n'y a pas d'enjeu. Mais d'avoir un communiqué de Santé Québec qui dit « Ah non, mais Epic n'est pas soumis à ça », malheureusement, c'est pas clair. Et je pense que c'est ça qui contribue à espèce d'envenimer le climat actuel. Et donc, pour revenir à notre monsieur Bélanger, est-ce qu'il aurait fallu procéder autrement, tu sais? Des fois, prendre une semaine de plus avant de faire une sortie, puis de la faire comme du monde, puis qu'elle aide à bâtir la confiance envers les efforts du gouvernement, c'est mieux que d'y aller en défonçant des portes ouvertes, là, tu sais? Et je pense que c'est ce qu'on voit dans son cas à lui. Surtout pour un gouvernement qui est déjà fragilisé puis qui n'a pas le luxe d'avoir des ministres qui se mettent à faire cavalier seul.
Oui, je conclue ce sujet-là. Est-ce que à l'intérieur de ça, ce qu'on retrouve davantage, c'est une guerre politique, et je m'explique, une guerre entre le fait que le ministre de la cybersécurité et de la transformation numérique, dans les faits, c'est une compétence transversale. Fait qu'il n'y a aucun pouvoir sur Santé Québec. Et là, il a utilisé les médias pour tenter d'avoir un pouvoir.
Mais non seulement il n'y a aucun pouvoir sur Santé Québec, mais il n'a aucun pouvoir sur rien. Et c'est un peu ça aussi le problème dans la façon dont ce ministère-là a été conçu, c'est qu'il ne sert que de consultant conseil, tu comprends-tu?
Ben oui.
Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a décidé, dans le remaniement de Mme Fréchette, de ramener ça au Conseil du Trésor pour que le ministre qui est responsable soit ait aussi une responsabilité légale et décisionnelle sur les contrats dont il est question. Alors, c'est ça. Alors, c'est là qu'on en est. Mais moi, je partage toutes les inquiétudes du milieu à l'égard de ce qui va arriver le 9 mai au matin. Et je te prédis que le 10 mai, avec Antonine, tu vas parler des problèmes qu'il y a eu dans les hôpitaux.
C'est sûr.
Malheureusement, c'est ça la nature de ces changements-là. Puis je pense que le pari de le faire dans deux projets pilotes, un gros hôpital montréalais, une région plus petite où les dynamiques ne sont pas les mêmes, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu les testes, ces systèmes-là, si tu veux les déployer à la grandeur de la province. Tu n'as pas le choix, là.
Bien, tu n'as pas le choix. Puis tu as raison que dans la gestion de projet, la logique suit son cours, c'est-à-dire le faire en projet pilote au lieu de le faire à l'échelle de la province. Fait que d'un, c'est un bon côté. Mais en même temps, quand tu fais un projet pilote, tu sais qu'il ne sera pas parfait au départ. Fait que tu sais que tu vas vivre des problématiques. Tu vas les régler justement pour ne pas les revivre dans d'autres régions.
C'est la nature du truc, tu sais. Alors, c'est sûr que c'est très difficile, je pense, pour les gens qui travaillent dans ces centres hospitaliers-là, parce qu'ils ont été désignés un peu comme les cobayes de l'exercice. Mais il y en aurait eu des cobayes, peu importe quand et comment on aurait procédé,
ouais.
Tu sais.
C'est ça. T'as entièrement raison. C'est clair que là, nos auditeurs réagissent au 418-971-1001, puis je partage leurs préoccupations et surtout, je partage leur empathie envers les gens qui n'auront pas leur chirurgie, parce que ça, c'est des drames humains des fois qui peuvent arriver. T'sais, je donne toujours le même exemple, mais ma mère qui s'est faite opérer à la hanche, elle a attendu 18 mois, mais les 9 derniers mois, elle n'était pas capable de dormir, fait que la santé mentale a pris le bord. Donc,
non,
quelqu'un qui n'aura pas sa chirurgie, pour lui, sa vie personnelle, c'est vraiment, mais vraiment dommageable. Ça, je partage là, cette opinion-là des auditeurs.
Oui, puis il va falloir voir ces 800 personnes-là. Est-ce qu'ils ont leur chirurgie déplacée de 3 semaines?
Mm-hmm.
Ou est déplacée de 6 mois?
Oui, c'est ça, exactement.
Aussi, dans la gestion de la liste d'attente, il y a une grosse différence, là, on s'entend.
En effet, tu as entièrement raison là-dessus. Autre test de leadership que tu m'as écrit pour Christine Fréchette tout à l'heure, et tu parles du remaniement des circonscriptions au niveau
pas
du
simple,
Québec.
Hein?
Oui, exactement.
Je vais essayer de rendre ça le plus simple possible pour que ce ne soit pas politique comme aux États-Unis,
oui.
Où les élus taponnent les frontières des circonscriptions pour s'assurer d'être élus.
Ce qu'on a vu au Texas, là, avec sous l'ère Donald Trump.
Au Canada, à chaque 10 ans, c'est une commission indépendante qui refait la carte pour s'assurer que les circonscriptions aient à peu près la proportion équivalente de population, plus ou moins 25 %. OK? Parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'une circonscription ait 1000 électeurs à un endroit, puis 50 000 à l'autre. Parce que ça veut dire que le poids des électeurs, où il y en a juste 1000, chaque vote compte plus. T'sais. Le problème, c'est qu'on est une région, le Québec, où il y a des zones où il y a d'immenses augmentations de population, les banlieues, et des zones qui se dépeuplent. Et donc, le fruit de tout ça, c'est qu'on a décidé d'abolir la circonscription de Gaspésie,
mm-hmm.
de la transformer en une immense circonscription au bout là, de la pointe du bas du fleuve et du Gaspésie. Et ben ça, ça fait une circonscription de quasiment 500 km², ça n'a aucun sens. Mais il faut mettre en place deux autres circonscriptions, une dans le centre du Québec puis une en Anneau-Terre. Le gouvernement a commencé par passer un projet de loi en disant « On oublie ça, on ne redécoute pas la carte pour les prochaines élections, merci, bonsoir. » Les élus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les élus des Laurentides sont allés en cours.
Ben oui, ils ont dit, hey, attends une minute, là.
On leur a donné raison.
C'est clair.
Alors là, que fait Mme Fréchette? C'est très difficile parce que si tu respectes le jugement de la Cour suprême, tu prives la Gaspésie d'un élu.
Oui.
C'est pas trop fort pour une première ministre qui dit qu'elle sera la première ministre des régions.
En effet.
Mais au-delà de ça, c'est qu'à un moment donné, là, c'est la Gaspésie qui va perdre la représentation. La prochaine fois, ça va être la Côte-Nord. Après ça va être l'Abitibi. Donc, il y a un problème de fond qu'il faut résoudre.
Oui, puis corrige-moi si je me trompe, mais dans un 500 km carrés pour une circonscription, il peut y avoir deux réalités complètement différentes à l'intérieur même de la circonscription. Ben non, mais c'est... Fait que c'est pas évident, ça,
c'est déjà des longues distances se rendre à Québec.
Exactement.
Partir d'un bout de la circonscription, à Québec, c'est 9 heures de route, puis traverser la circonscription, c'est 4 heures, 5 heures de route.
Non, non, ça n'a pas de sens.
Ça n'a aucun sens. Alors, quelle solution elle va mettre en place? Invoquer la clause dérogatoire? Passer un nouveau projet de loi avec une clause dérogatoire pour les prochaines élections seulement, mais là, il va se mettre à dos les électeurs des Laurentides et du Centre du Québec.
Ben oui.
Alors là, tout le monde va être mécontent. Est-ce qu'on ajoute un siège à l'Assemblée nationale pour donner un statut protégé à la Gaspésie? Mais là, on va ajouter des sièges pendant combien de temps? On va se finir avec 200 députés à un moment donné à l'Assemblée nationale. Alors, c'est très complexe comme solution à apporter à ça. Je pense que la façon dont son gouvernement va gérer ça est vraiment un test de sa... Tu sais, elle qui prétend être une élue, première ministre, qui réfléchit, qui cherche des compromis, des voies de passage. Est-ce qu'elle est capable de faire mieux que le gouvernement Legault? Je pense que c'est le test qui s'impose. Elle a déjà annoncé que M. Roberge va présenter un nouveau projet de loi.
Oui, donc ça va être à suivre. Mais chose certaine, c'est moi qui se trompe ou est quasiment dans une situation perdant-perdant? À l'effet que si elle écoutait la Cour suprême, bien, elle est perdante versus les régions. Mais là, si elle fait son projet de loi, bien, elle perd quand même.
Les grands négociateurs sont capables de trouver des voies de passage. C'est
t'as raison.
C'est le fil dans le chat d'une aiguille.
T'as raison. On va voir sa capacité à négocier.
C'est ça, sa capacité à trouver des solutions créatives, de sortir de la boîte, de résoudre un dilemme insoluble. Tout est là.
Tu vois, c'est pour ça que je ne peux pas être premier ministre. Je n'ai pas la solution encore à ça.
Mais ils ont des tonnes de monde. On sait la job dans la vie de penser à ça. Là, on ose croire qu'ils ont des solutions à présenter à la première ministre et au ministre Roberge.
En effet. Hey, parlant de grands négociateurs, Mark Wiseman, l'ambassadeur du Canada à Washington, qui a été placé là par Mark Carney pour sa capacité à négocier et ses liens étroits avec le Parti républicain aux États-Unis. Son bureau a fait une petite gaffe, une invitation pour un petit party only in English.
Oui, puis le Bloc québécois est très habile de mettre ça dans l'espace public le jour même où M. Wiseman est attendu en comité parlementaire.
Exactement.
Il sera attendu de pied ferme, il faut le dire. Hein?
Oui.
Parce qu'il faut rappeler que Mark Wiseman n'est pas un fervent francophile et a été dans le passé un farouche opposant à la gestion de l'offre.
Mais voilà.
Il est un des parrains de l'initiative du siècle, la brillante idée selon laquelle on a augmenté la population du Canada jusqu'à 100 millions en ouvrant les portes de l'immigration.
Oui. Puis ça créera pas du tout de crise sociale, de crise du logement, etc.
Non, là, alors, c'est une ça super va être beau idée, de le voir essayer de réconcilier ses positions passées avec son mandat actuel, parce que M. Carney s'est encore fait questionner là-dessus, puis il dit, écoutez, M. Wiseman est un diplomate, ce n'est pas lui qui décide. Il va mettre en œuvre.
Si tu permets, on va écouter justement l'extrait de Mark Carney, puis il parle aussi à la fin de l'extrait de gestion de l'offre. C'est un extrait là, qui vient de LCN, l'émission de Mario Dumont.
Je suis déçu, c'est pas approprié du tout. C'est pas acceptable de lui ou de son bureau à Washington. Qu'est-ce qui arrive? C'est pas correct, OK? J'estime M. Wiseman. Mais il est un ambassadeur. C'est un rôle diplomatique. Ce n'est pas un rôle où des gens prennent des décisions. Le gouvernement du Canada va défendre les intérêts du Québec, les intérêts et la gestion de l'offre, la culture québécoise et la culture francophone.
Bon, moi, je trouve ça mince de dire « Ouais, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions, fait que c'est pas grave si c'est juste en anglais. » là. Puis l'autre chose que, évidemment, avec le passé de M. Wiseman, ben là, le Québec va frapper sa gestion de l'offre sans bon sens. Fait que si on vient ouvrir un peu les quotas, il va être pointé du doigt.
Oui, mais je pense que, tu sais, premièrement, Mark Wiseman n'est pas le négociateur en chef. OK, c'est Janice Charrette. Puis c'est vrai qu'un diplomate met en œuvre les politiques du gouvernement. Mm-hmm. Donc, mais est-ce que cette contradiction-là peut être réconciliée? C'est sûr que on va le voir à l'usage, puis on va voir ce qu'il en dit aujourd'hui là, en témoignage parlementaire. Là. Je pense que c'est pour ça que ça va être révélateur. Pour le coup de l'invitation, je veux dire, ça ne s'invente pas. Là. Puis on va mettre une chose au clair. On aime ça dire que M. Wiseman n'est pas un francophile, etc., mais c'est pas lui qui a envoyé les invitations.
Ben
là. C'est ça, moi, dans mon livre, qui a d'inquiétant. C'est qu'il n'y a personne à l'ambassade qui se soit préoccupé que les invitations soient envoyées en français aux parlementaires francophones.
Oui, parce que c'est...
Dans un pays bilingue.
Exactement. C'est sûr que ça a passé dans les mains de entre 5 à 10 personnes. Là. Fait qu'il n'y a personne qui a allumé.
Puis il n'y a personne qui a allumé que c'était un enjeu. Et ça, c'est tellement révélateur de la difficulté pour le gouvernement de faire respecter la loi sur les langues officielles et de faire respecter le fait français qui n'est pas un luxe, qui n'est pas un « oh oui, il faudrait que », tu sais, mais que c'est supposé faire partie de l'ADN des relations internes au gouvernement, mm-hmm. de l'ADN de ce que projette le gouvernement du Canada comme étant un pays bilingue. C'est supposé faire partie de l'ADN d'envoyer des invitations bilingues.
Ben oui. Tu sais?
C'est pourtant pas compliqué, là.
Ben, ça et devrait
donc,
être simple.
Si on n'est pas capable d'envoyer des invitations bilingues, imaginez la place du bilinguisme ailleurs dans l'appareil gouvernemental, à quel point c'est un combat sans cesse, c'est comme un jeu tragique de serpent et échelle, là.
T'as entièrement raison. Hey, je termine avec Christine Fréchette qui, à 13h30, va être dans l'est de Montréal pour une grande annonce. T'attends-tu à de quoi pour l'hôpital Rosemont-Maisonneuve?
Oui, mais non, mais c'est clair. Là,
c'est clair. Hein?
Elle va confirmer le financement pour la prochaine étape de Maisonneuve-Rosemont. Je pense que, de un, c'est il faut le dire, c'est un dossier pour lequel elle est sensible. Elle a déjà été présidente de la Chambre de commerce de l'est de Montréal, là. Puis, tu sais, s'il y a une tâche à effacer sur la dernière année du gouvernement Legault et dans ses relations avec Montréal, c'est bien le cafouillage éhonté autour du financement de Maisonneuve-Rosemont, dont on a promis la construction, puis dont on a oublié de mettre les sommes d'argent dans les budgets. C'est ce qui a donné lieu au mélodrame absolument lunaire là, qu'on a vu l'an dernier. Donc, je pense que pour elle, d'arriver avec cette annonce-ci rapidement, c'est une façon là, de cocher une case. Là, vous voyez, j'agis, je suis à la hauteur de mes responsabilités. C'est une façon d'envoyer un signal fort pour la grande région de Montréal, parce qu'il ne faut pas l'oublier, là, Maisonneuve-Rosemont, les gens qui se font soigner là, ce n'est pas juste du monde qui habite sur l'île de Montréal. Là,
c'est un
grand hôpital de recherche, de soins oncologiques, de pointe, etc. Donc, ça ratisse là, l'est de l'île, mais aussi tout l'est des couronnes là, de Montréal là, jusqu'à assez loin. Donc, je pense que c'est une annonce qui est attendue depuis tellement longtemps là, que tant mieux. Puis, on voit que c'est son équipe et elle avaient minutieusement préparé son entrée en fonction.
Ah oui, hein?
Parce qu'objectivement, à tous les jours, elle arrive avec quelque chose de nouveau. Ça envoie le signal qu'elle était prête à gouverner et qu'elle veut essayer d'obtenir le plus de résultats possible dans le très, très, très court laps de temps qui lui est imparti.
Le fameux...
Maintenant, pour vous, à Québec, est-ce qu'elle va régler la question du financement du tramway?
Ah!
C'est entre les mains de Jean Boulay.
Oui, puis on est censé avoir Joël Lightbound demain en ondes avec nous, fait qu'on va pouvoir lui jaser de ça.
Bon, ben c'est parfait.
Yes. Non, le fameux script, je termine là-dessus, son fameux script de 100 jours, apparemment, qu'elle a écrit, là. On coche les cases une par une, hein?
C'est ça. Mais c'est un gouvernement qui sait où il s'en va.
Ben, exactement. En même temps, c'est rassurant, là, après la boussole où on gérait selon les sondages, d'avoir quelqu'un qui a une ligne de conduite claire. Moi, je trouve ça rassurant.
C'est ce qu'elle espère, en tout cas, parce qu'elle a besoin de ça si elle veut remonter dans les intentions de vote.
En effet, Emmanuel Latraverse, merci beaucoup. Je te souhaite un excellent week-end. Et on se reparle lundi prochain. Emmanuel Latraverse dans le caucus avec nous du lundi au jeudi de midi à 12h30. Dans un instant, Boulevard 102.1, on va parler de deux choses. D'un, de nettoyage de la ville et de réparation des nids de poules. On est en retard, ça paraît. Vous nous le dites régulièrement au 418-971-1021. Il y a eu conférence de presse. Mathias Turcotte va venir nous résumer comment la ville va faire pour rattraper le retard. Et je vais vous parler de ces blessures au genou, le ligament croisé antérieur qui lâche chez nos jeunes de plus en plus. Pourquoi ça lâche? Quelles sont les pistes de solution? Vous allez voir, on a des responsabilités parentales, puis je suis convaincu que le milieu de l'éducation pourrait faire mieux également pour que nos jeunes se blessent moins. Mais avant, circulation, Pascal.
Juste rappeler le pont Pierre-Laporte-Sud au milieu de Tablier, ben c'est voie de gauche qui est bloquée. Il y a une panne remorquage en cours.
Vous êtes à l'émission Nageur sur les ondes de Boulevard 101.